Alors, j'espère que j'ai bien préparé ce que vous attendiez. Et là, ça prend bien. Je voulais méditer un peu avec vous les dons du Saint-Esprit. C'est pas un sujet nouveau, mais c'est quand même de cette manière que l'Esprit Saint, on appelle l'Esprit septiforme, pour utiliser des mots savants, celui qui a sept visages différents, c'est de cette manière qu'il vient intervenir dans notre vie, qu'il vient s'insuffler en nous, qu'il vient nous voir. Et évidemment, à chaque fois, c'est l'Esprit Saint en plénitude, hein. C'est pas un septième de l'Esprit Saint qui agit à chaque fois. C'est toujours l'Esprit Saint, c'est une personne. Il est bon de se le rappeler. Mais il a cette manière de venir agir dans certaines circonstances et de telle manière qui fait que à l'école de l'Écriture, très tôt dans l'Église, on a un peu mis en valeur, on a un peu défini qu'il y avait sept dons de l'Esprit Saint. Je pense que c'est pas grave si on en trouve plus, hein. Voilà, les dons sont multiples. Voilà, et puis on se met aussi à l'école de la Vierge Marie, parce que celle qui a pleinement vécu de l'Esprit Saint, là aussi, hein, vous le savez, c'est vraiment elle, hein. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre, comme il faudrait réentendre ces paroles pour chacun d'entre nous, puisque c'est les paroles qu'on a reçues, pas de cette manière exacte, mais c'est ce qu'on a reçu à notre baptême. Hein. Notre baptême, c'est comme si l'ange Gabriel nous disait à chacun d'entre nous, l'Esprit Saint te prendra sous son ombre, et la puissance du Très-Haut, l'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prend sous son ombre. Voilà. Mais toute sa vie, même Marie, elle a dû se laisser éduquer par l'Esprit Saint. Vous voyez, elle n'avait pas le programme préétabli à l'avance de ce que serait sa vie chrétienne. J'ose dire qu'elle avait une vie chrétienne, parce qu'elle était la première disciple du Christ, de son Fils, la première à garder la parole de Dieu. Et donc, même Marie a dû se préparer, et c'est ce que vous vivez, ce que nous vivons, ce que l'Église vit de manière particulière en ce moment, avec le temps du Cénacle, où Marie attend l'Esprit Saint avec les apôtres et avec certainement plein d'autres disciples. Voilà, alors le premier don que je vais parler, c'est le don de sagesse. Alors, je ne sais pas si ça vous est souvent arrivé. Si tu es bien sage, tu auras une surprise, hein. Quand on parle du don de sagesse aux enfants, là déjà, il y en a plusieurs qui baissent la tête en disant « Ouh là là !» Ah bah, disons, super. Alors, le prêtre, il dit comme papa et maman, il dit qu'il faut que je sois sage, et bon Dieu, il dit qu'il veut que je sois sage. Bon, pas forcément. Vous avez peut-être eu il y a des saints comme ça, ou des grands témoins, c'était des enfants pas très sages. Mais ça n'a pas empêché d'être des saints, bien au contraire. Parce que, du coup, ils avaient un caractère affûté, vrai, et donc l'Esprit Saint a pu aussi se servir d'eux. Voilà. Je pense que le petit Saint Paul, le petit Saül, il devait être un peu turbulent. Voilà. Donc si tu es bien sage, tu auras une surprise. Alors, c'est pas le don de sagesse, c'est pas la récompense des enfants modèles. Hein. C'est cette capacité à goûter la bonté de Dieu en toute chose. Cette capacité à goûter la bonté de Dieu en toute chose. Alors c'est le premier des dons de l'Esprit Saint. Le premier, pas simplement parce que c'est le premier qui arrive sur la liste, je pense que c'est le premier parce que c'est l'un des plus importants, peut-être même le plus important. On le voit dans notre vie quotidienne, quand on est face à une situation, n'importe laquelle, même la plus banale, ou quand on regarde les informations, on commence par voir les choses avec notre propre regard. C'est normal. Mais voilà, on évalue les situations à travers nos propres prismes, à travers notre éducation, à travers notre histoire, à travers nos sentiments du moment, à travers notre humeur, à travers nos désirs. Et le don de l'aide de sagesse, il vient un peu nous faire changer de lunettes. Oui. Parce que nous n'avons pas forcément les lunettes adaptées pour voir la situation de ce monde. La sagesse de Dieu est répandue dans ce monde, mais vous savez bien que elle n'est pas forcément visible comme ça. Voilà. Pourtant, elle est là, et on en fait parfois l'expérience, on peut même en faire de plus en plus l'expérience. Dans notre monde cabossé, dans notre monde en perte de repère, dans notre monde violent, la sagesse de Dieu est à l'œuvre. Le pape François disait, c'est le don qui nous permet de voir le monde, les conjonctures, les problèmes, tout avec les yeux de Dieu. Par exemple, au terme d'une dispute conjugale ou d'une dispute dans la paroisse, bon, pas dans la paroisse du Creusot, on ne discute jamais. Bon, on va prendre celle de Mâcon, par exemple. Bon. Plutôt que de se faire la tête entre frères et sœurs, entre époux, quand on accepte de se regarder, de se parler, de se pardonner, ça c'est le fruit de l'esprit de sagesse. Vous voyez, voir les choses autrement. Avec mon prisme, je vois mes blessures. Il avait tort de parler comme ça, elle avait tort de me faire cette remarque, et machin. Mais derrière, est-ce que j'accepte de déposer les armes? Est-ce que j'accepte d'entrer dans une autre sagesse que la même? Et vous savez bien que c'est dur. C'est dur. Parfois, il faut un peu de temps. Mais je pense que la Vierge Marie, quand elle a contemplé la croix, quand elle a contemplé Jésus crucifié, elle devait avoir plein de raisons d'en vouloir atrocement à ceux qui avaient fait du mal à son enfant. Vous voyez? Et sous la mouvance de l'Esprit Saint, le don de sagesse, elle reste à la croix et elle contemple une sagesse qui la dépasse. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. C'est du psaume 33. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Alors c'est un don, on peut faire l'expérience n'importe où, dans la salle d'attente, dans les embouteillages. On peut se laisser envahir par l'Esprit Saint au lieu de se jeter sur notre portable. On peut aussi fermer les yeux, ouvrir notre cœur à la présence et à l'amour de Dieu pour nous, au lieu de pester parce qu'il reste, je dois encore attendre une demi-heure. On peut décider de vivre cette attente en présence de l'Esprit Saint. Seigneur, je veux vivre ce temps avec toi, je décide de m'ouvrir à ta présence. Dans le doute, à la messe, quand on est agacé, demandez l'Esprit Saint à la messe. Au début de messe, ça peut être pour bien se préparer, demander à l'Esprit Saint de nous donner son don de sagesse. Quand on est agacé par la lecture hachée d'une lecture, oui. Bon, ça n'arrive pas au Creusot, mais pareil. Hein. Voilà. Vraiment, elle n'a pas préparé la lecture, celle-là. Bon. Ou alors, quand on est distrait au moment de la consécration, on peut demander l'esprit de sagesse pour que la parole de Dieu pénètre et agisse dans notre cœur. Malgré ça, sans attendre la messe parfaite, la messe qui nous convienne, tout ça, parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes croyants depuis plus longtemps que moi, notre paroisse, au bout d'un moment, elle prend telle qu'elle est. Quoi. Le Seigneur, il n'était pas absent de tout ça, malgré tout. C'est pas forcément à lui de s'adapter, c'est pas forcément un petit peu au prêtre, quand même, mais moi aussi, mon cœur, en tout cas. Dans la maladie, le don de sagesse, il est donné pour que nous apprenions à contempler. Au-delà de la souffrance, l'amour de Dieu. Je le dis en tremblant, hein, croyez bien. Je le dis en tremblant parce que je suis plutôt en bonne santé. J'ai pas l'expérience que certains peut-être ont. Mais quand même, quand on voit l'expérience des saints, l'expérience de certains malades à Lourdes, voilà, parmi des proches, cette capacité à voir ma maladie avec les yeux de Dieu. Et je crois que c'est un grand basculement dans la vie spirituelle quand on arrive à faire ça. L'expérience de la souffrance est malgré tout continuer à croire, contempler, à voir. Enfin, continuer à voir. la petite Thérèse de Lisieux, elle a laissé l'esprit de sagesse agir en elle, alors même qu'elle était dans une longue nuit de la foi. Elle ressentait le néant. Et, vous savez, Thérèse, elle a lutté hein, pour garder la foi. Elle a écrit Credo avec son sang, sans qu'elle crachait parce qu'elle était malade. Elle a écrit Credo. Oh, je crois malgré tout. Elle goûtait, et malgré ça, c'est très mystérieux la vie spirituelle, hein. Mais c'est l'expérience spirituelle chrétienne depuis 2000 ans. On peut ressentir un vide, on peut, les doutes nous traversent la tête, et pourtant, on continue à goûter quelque chose de l'amour de Dieu. Et pourtant, on sait qu'on est sur la bonne route. Et pourtant, on sait qu'il faut qu'on continue malgré tout. Et ce n'est pas de l'auto-persuasion, hein. C'est qu'on sent que notre cœur, il continue d'être habité par quelqu'un, hein, dont la sagesse. C'est ce qui nous fait rester dans une relation avec le Seigneur, parce que si notre vie, elle est toujours dépendante de notre ressenti, et le ressenti, faut s'en méfier. C'est-à-dire, ce n'est pas tout. En tout cas, ce n'est pas la mesure de notre sainteté, d'une part, ce n'est pas la mesure de la qualité de notre vie chrétienne. Le ressenti, ça passe. D'accord ? Le ressenti, c'est pas parce que je le ressens comme ça que c'est vrai. Pour plein de choses d'ailleurs, hein. Au-delà de la vie spirituelle, on le sait bien. On a notre propre subjectivité, alors encore plus dans la vie spirituelle, où ce n'est pas nous qui sommes juges, c'est le Seigneur qui sait où on en est de notre sainteté. Vous voyez, on dit ça hein, dans la vie religieuse, les novices, les novices tout fervents, tout plein de feu, de l'Esprit Saint, enfin, voilà, ils sont pleins de ferveur, et puis alors ils croient tout le temps qu'à un moment ils sont arrivés à terme. Quoi. Encore, je suis vraiment à deux pas d'entrer en extase et d'entrer dans la vision béatifique. Et puis alors ils rêvent. Et si je mourais maintenant, mes frères seraient là. Et qu'est-ce qu'ils diraient de moi ? Je suis tellement serviable. Vous voyez ? Ouais, alors, l'Esprit Saint, en général, commence à les raboter pour leur montrer qu'en fait, eux, ils pensent qu'ils sont là. Qu'ils sont là et en fait, ils sont plutôt par là. D'accord ? Alors, en tout cas, ils sont là où Dieu les aime. Saint François de Sales disait « Recevons la sagesse qui n'est autre chose que l'amour qui savoure. » L'amour qui savoure, qui goûte et expérimente combien Dieu est doux et suave. Voilà. Pour le don de sagesse. Le don d'intelligence. Alors là aussi, petit lien avec... dimension un peu humaine de notre vie, le don d'intelligence, ce n'est pas lié à notre capacité intellectuelle. Ce n'est pas lié à nos diplômes, ce n'est pas lié à notre culture. Vous voyez, aussi, regardons dans notre Église, qui est traversée depuis des siècles par des personnes humbles et qui, pour autant, ont été sous le souffle de l'Esprit Saint d'une manière particulière. C'est très frappant, je le dirai après. Donc, l'Esprit Saint n'est pas réservé aux dons, ne réserve pas ses dons aux premiers de classe. Ça nous rassure. Mais il le donne à ceux qui lui demandent la lumière pour comprendre les mystères de Dieu, pour comprendre de l'intérieur notre foi. Je ne sais pas si vous faites de la théologie. Enfin, ce soir, en tout cas, vous en faites un peu. La théologie, ce n'est pas réservé aux croyants. Aux experts, aux prêtres, tout ça. Et on a cette responsabilité d'essayer de comprendre les mystères de Dieu. Ah, oh, moi, la Trinité, oh, j'ai laissé tomber. Hein. Je vais à la messe ce jour-là, mais enfin, le 3 en 1, là, moi, je vois du shampoing. Enfin, le 3 en 1, ça ne me parle pas beaucoup. Oui. Ben, n'empêche que si vous demandez à l'Esprit Saint de comprendre de l'intérieur, il se pourrait bien qu'il vous éclaire quand même. Quand Jésus s'adresse aux disciples d'Emmaüs, il les appelle, il leur reproche d'être des esprits sans intelligence. Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Il fait référence à ce don de l'Esprit Saint, qui leur fait défaut à son âme. Parce que après, les disciples, hein, ils disent quoi ? Ils disent, notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures. Le don d'intelligence reçu à ce moment par les pèlerins d'Emmaüs leur permet de saisir de l'intérieur le sens de la parole de Dieu. Et vous savez que les apôtres, on aurait bien aimé assister à ce cours de Jésus, à cette explication de Jésus. Il reprend dans la loi et les prophètes tout ce qui le concerne pour montrer que oui, il fallait que le Messie souffre sa passion pour ressusciter dans la gloire. Et ça, on voit que les premiers croyants, les apôtres, ils ont eu du mal à comprendre ça. Don de l'intelligence. Il peut arriver aussi, petit lien avec la messe, mais pas au Creusot, d'être interloqué parce qu'un point de l'homélie nous semblerait inexact. Donc pas au Creusot. Toute confiance dans le Père Godefroy, le Père... Je ne connais pas les autres. Voilà. Bon. Mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé un peu de tiquer. Tiens, bon, c'est bizarre ça. Tiens, bon, et ben ça se peut que l'esprit saint vous vienne vous titiller un peu. Et il faut prier pour qu'il aille un peu plus titiller votre prêtre, votre prédicateur. Ça peut être aussi un mot dans l'homélie qui apparemment anodin et qui va avoir un retentissement particulier en nous. On raconte cette histoire, vous savez, un séminariste qui dit dans une homélie, je n'ai entendu qu'un seul mot, une seule expression du prêtre, il faut tourner la page. Oui, en fait, le prêtre, il était perdu dans son homélie. Il était là avec ses papiers, puis il était parti dans son truc là, et puis il ne sait plus quoi dire. Le blanc. Il dit, bon, ben, il faut tourner la page. Le séminariste entend ça, et il dit, j'ai compris que j'étais appelé à changer de vie. Moi qui m'interrogeais sur ma vocation. Pas mal.
Oui.
Sympa. Hein. Bon, ça se passe pas tout le temps comme ça. Mais parfois, ça se passe comme ça. Concernant la parole de Dieu, c'est le don d'intelligence, il vient aussi nous ouvrir notre cœur pour que nous la recevions selon notre situation, nos interrogations. On a pu être déjà touché par un texte de la parole de Dieu, alors qu'on pensait le connaître par cœur, on l'a entendu mille et mille fois, et pourtant là il vient nous toucher. Une mère de famille comme ça qui avait été touchée par le livre des Nombres, la plainte des Hébreux dans le désert. Ah, qui donc nous donnera la viande à manger ? Nous nous rappelons encore le poisson que nous mangeons pour rien en Égypte. Maintenant, nous ne voyons jamais rien que de la manne, et ils se plaignent, alors qu'ils ont la nourriture tous les jours. Et en fait, cette maman, qui était sûrement très gentille, elle a pris cet avertissement pour elle, parce que ces ados, c'est les ados, depuis cette expérience, les ados, ça aime bien vous dire le cas de vérité, un petit peu brut de décoffrage. Et ils lui reprochaient souvent de se plaindre. Alors, elle entend ce passage, il dit, wow. En fait, entre les Hébreux et moi... pas beaucoup de différence. Bon, on espère aussi que les ados vont écouter un peu la parole de Dieu. Donc pour les mystères de la foi, que ce soit la Trinité, pour l'Eucharistie, pour des choses qui aujourd'hui dans la foi nous dérangent depuis des années. Vous voyez, moi je suis toujours un petit peu triste quand j'ai des paroissiens qui et me dire, non mais ça, quand on dit le « je crois en Dieu » à la messe, ça je le dis pas. Ça je le dis pas. Et, alors c'est vrai que depuis la révélation, la sciage, les abus dans l'Église, on veut plus dire la Sainte Église, l'Église Sainte. Ok, très bien, je comprends la blessure, attention. Mais qu'est-ce que ça veut dire que l'Église est sainte? Et est-ce que ça veut dire, est-ce qu'à un moment... quand on était tous dans l'illusion la plus complète, on a vraiment cru que l'Église était absolument sainte dans tous ses membres. Est-ce que vraiment, à un moment dans l'Église, on a cru ça? Non. Donc ça veut dire que dire Sainte Église, c'est un exemple que je prends, il y en a plein d'autres, ça veut dire autre chose. Et qu'en fait, on peut continuer à le dire, même si peut-être ça résonne de manière particulière aujourd'hui, certes. Et vous voyez, ce genre de choses, qu'on préfère laisser de côté. Non, ça ne me parle pas, ça. Ah ben, ça parle à l'Esprit Saint, en tout cas. Est-ce que tu veux qu'il te parle? Est-ce que tu veux qu'il te parle?
Alors, c'est pas magique non plus, hein. C'est pour ça que il faut s'intéresser à la foi. L'intelligence nous fait comprendre les choses comme Dieu les comprend, avec l'intelligence de Dieu. Mais j'ai besoin aussi de nourrir mon intelligence, l'intelligence de ma foi. J'ai besoin de lire, j'ai besoin d'écouter des enseignements à la radio, j'ai besoin d'écouter des topos, j'ai besoin que... Voilà, j'ai besoin aussi de ça. Troisième don, le don de force. Le don de force pour venir rééquilibrer notre vie. Il est dans les contrariétés du quotidien comme dans les épreuves. C'est le don de l'esprit qui vient au secours de ma faiblesse. C'est un don à demander pour la vie quotidienne. Lorsque nous affrontons, le pape François disait dans une catéchèse en 2014, lorsque nous affrontons la vie ordinaire, lorsque surgissent des difficultés, souvenons-nous-en, je peux tout en celui qui me rend fort. C'est une belle parole de saint Paul. Je peux tout en celui qui me fortifie, je peux tout en celui qui me rend fort. Et de fait, le don de force nous soutient pour dire oui à quelque chose qui nous contrarie ou gêne notre tranquillité. Vous voyez, l'image que j'ai en tête, c'est la parabole de Jésus, celui qui se fait déranger par son voisin en pleine nuit. Et, j'ai un ami qui vient d'arriver, donne-moi un lupin. Bon. Voilà, ça arrive parfois, je le vois comme prêtre, hein. Il faut accepter d'être dérangé. Et après une longue journée pastorale, je suis dans mon canapé, je vais enfin me poser, et là ça sonne. J'ai le choix. Soit je fais le mort, il n'y a personne, j'arrête de respirer, plus personne m'entend. Soit j'écoute l'Esprit Saint, alors parfois aussi l'Esprit Saint me dit non, reste tranquille, hein. Parce que là, sinon on va prendre assez la petite cuillère. Mais parfois aussi, il faut accepter d'être dérangé. Voilà. Et la vie quotidienne nous offre de multiples occasions de s'appuyer sur le don de force. Il n'est pas toujours facile d'accomplir ce qu'on appelle son devoir d'État. Ce n'est pas facile pour une maman de s'extraire de son lit douillet pour consoler son enfant pour la quatrième fois. Moi, comme j'admire les parents, enfin, vraiment d'être entouré de familles. Enfin, je pense aux familles, mais je parle de... Le peuple de Dieu est concerné, mais quand je vois des parents qui se lèvent pour un enfant malade, je me dis, moi j'ai pas d'enfant, j'ai pas ce problème, mais est-ce que j'ai la même disponibilité de cœur pour mes paroissiens? C'est pas sûr. Hein. C'est déchirant de laisser en plan un dossier, un travail pour rentrer à la maison. Vous voyez, d'accepter de remettre un travail au lendemain pour pouvoir aller à la rencontre de ceux qui nous attendent. Pas facile ça, hein. Moi, je sais que souvent, et jusqu'au bout, je vais terminer le dernier truc, aller un dernier mail, machin, aller puis un dernier truc, voilà, et puis j'arrive un quart d'heure en retard. Voilà. Ah bah, ben, c'est pas sympa, ça. C'est un don aussi pour... un don pour rester pur. C'est, le don de force, il est indispensable pour dire non. Je sais pas si vous connaissez Claire de Castelbajac, une jeune dont le procès de béatification est en cours. Une jeune fille qui était de son temps, qui est morte assez jeune. Et à 18 ans, elle va faire des études d'art à Rome. Et alors, quand on a 18 ans, qu'on est plutôt une jolie fille et qu'on est à Rome, eh bien, il y a plein de tentations aussi. Et elle aurait pu se laisser griser par une soi-disant liberté, par l'univers mondain brillant dans lequel elle évolue. Il faut beaucoup prier pour nos jeunes, hein. Peut-être qu'on ne se sent pas concerné, nous, mais il faut beaucoup prier pour nos jeunes qui essaient d'avoir une vraie vie chrétienne et qui se laissent parfois griser par une vie étudiante pas très ajustée, par des relations pas très ajustées. Le don de force, c'est le don aussi pour avoir une juste attitude. Pour trouver la bonne parole, avoir une attitude ajustée. Vous voyez, parfois on sent bien qu'on est prêt à dire quelque chose et on sait bien parfois que nos paroles, même si on a raison, elles ont pas forcément, c'est pas forcément le bon moment, ce sera pas forcément le bon ton. Alors, combien je regrette d'avoir, alors que je sentais qu'il fallait pas que je le dise, hein, évidemment, mais combien j'ai pu voir qu'une parole dite un peu vite, un peu sous le coup de l'énervement, parce que je dis quand même, ça lui fera du bien de l'entendre. Hein. Ah ben non, et non. C'est le don de force pour oser, le don de force pour oser dire et agir. Pour dire, oser dire quelque chose à quelqu'un ou pour proposer une idée géniale. Souvent, nous fuyons et nous pensons que ce n'est pas si important. Vous voyez, l'Esprit Saint, il parle dans un groupe comme le vôtre, il peut parler par plein de personnes, hein, vous le savez. Hein. Dans la règle de Saint-Benoît, chez les bénédictins, le novice, il a voix au chapitre hein, dans certains sujets. Ils prennent ça très au sérieux. Hein. Le plus jeune, le moins expérimenté, alors il n'y aura pas, on ne va pas être là tous à dire « Ah oui, vraiment, c'est magnifique ce qu'il dit. » Mais quand même, il est écouté. Et on le prend au sérieux. Le don de force nous évite la paralysie du « à quoi bon » ou du « on a toujours fait comme ça ». Alors ça, c'est parfois un don qu'il faut demander pour la paroisse. Hein. Combien de stérilité, de lieux qui meurent avant même de naître, parce qu'on est, on a manqué peut-être un peu de courage, de force, on a, comme on dit, pas osé sortir de nos zones de sécurité communautaire. À ce sujet, je vous recommande vivement la lecture de la joie de l'Évangile de notre cher pape François, hein, la joie de l'Évangile qui est un beau... une très belle méditation sur ce que l'Esprit Saint demande aux églises aujourd'hui, aux paroisses. Hein. On a toujours fait comme ça. Le don de science. Est-ce que ça avance ? Non. Le don de science. Là aussi, il ne s'agit pas de physique ou de chimie. L'Esprit Saint, a priori, ne vous... ne vous informera pas s'il y a une vie extraterrestre ailleurs, il ne vous aidera pas à découvrir une autre planète. Le don de science, c'est ce qui nous permet de saisir, à travers la création, la grandeur et l'amour de Dieu et sa relation profonde avec chaque créature. Le don de science vient nous conduire à saisir, à travers la création, la grandeur et l'amour de Dieu et sa relation profonde avec la créature. Ce sont les mots du pape François. Mon Dieu, tu es bon, tu es bon, Dieu vivant, Dieu vivant. Voilà, voilà. Vous connaissez ? Voilà. Don de science. Voilà. Don de science. Ce chant. Enfin, les paroles, enfin, ce que ça exprime. Si nous ne résistons pas à nous exclamer devant un coucher de soleil ou une chaîne de montagnes enneigées, peut-être ne reconnaissons-nous pas systématiquement l'œuvre de Dieu. Pourtant, le don de science nous apporte précisément cette capacité à prendre conscience de la création, des créatures et du Créateur en tant que tel. C'est le don aussi qui nous fait prendre conscience de la différence entre le Créateur et la créature. Je pense que c'est, si vous avez une mentalité un petit peu écolo, et normalement tout chrétien devrait être un bon écolo, un vrai, à la façon... là où date aussi, on doit commencer par ça. Le chrétien écolo, c'est celui qui a conscience, il ne voit pas simplement le monde autour de lui, il le rapporte à Dieu. Voilà pourquoi il veut le respecter, ce monde. Voilà pourquoi il a, comment dire, il ne peut pas être un dominateur de ce don. C'est parce que lui-même, il se reconnaît créature, dépendant d'un créateur, et du coup, lié à l'ensemble de la création. Et donc voilà, le don de science à demander. Un religieux témoigne avoir reçu le don de science lors d'une promenade dans une vallée perdue, s'émerveillant des montagnes et de la flore luxuriante du printemps,
il a reçu en plein cœur une lumière et pris conscience que Dieu était présent partout et à cet instant précis. C'est la sensation que nous éprouvons également lorsque nous admirons une œuvre d'art ou toute autre merveille qui est le fruit du génie, de la créativité de l'homme. Aussi, dans le travail, quand on a des responsabilités grâce à l'esprit de science, un homme, Thibault, manager, reconnaît les talents de ses collaborateurs comme un don de Dieu. Et du coup, ça influe sa manière de faire, parce qu'il va s'engager à respecter ses talents, leurs talents, et à les faire fructifier. Et ça aussi, il faut prier pour tous ceux qui ont des responsabilités dans l'Église, qu'ils aient le don de science, de discerner les talents, les charismes des paroissiens, pour que chacun porte du fruit dans une paroisse. On peut dire que le don de science vient rééquilibrer ce qui ne l'est pas. Je suis créature, je suis dépendant, je suis au service, je ne suis pas maître. Voilà. Il vient rééquilibrer. Ça va, vous tenez le coup ? Bon, très bien. C'est bientôt fini. Le don de conseil. On a souvent l'habitude, j'espère, de demander conseil à un proche avant de prendre une décision, surtout une décision qui nous engage, qui engage notre entourage. Mais est-ce qu'on pense à invoquer l'Esprit Saint pour lui demander son don de conseil dans les grands, mais aussi dans les petits choix de notre vie ? Le don de conseil nous donne de choisir concrètement le bien à faire. Dans notre liberté, il ne s'agit pas seulement de discerner entre un bien et un mal. Il nous faut parfois aussi peser le pour et le contre entre deux biens. Par ce don, Dieu lui-même illumine notre cœur de manière à nous faire comprendre la juste manière de parler et de se comporter et le chemin à suivre. Et des parents se demandaient quel collège choisir pour leur enfant. Ils ont demandé l'aide de l'Esprit Saint. Quand j'ai vécu à Paris, j'étais animateur dans un patronage, et le prêtre nous disait, mais si vous voulez savoir comment, quoi dire aux enfants qui vous sont confiés, il faut demander le don de conseil. Alors, ça tombe bien, notre maison s'appelle le patronage du bon conseil. Oui. Notre-Dame du bon conseil, d'ailleurs, petite parenthèse, j'étais très très heureux du coup, et mes amis anciens animateurs aussi, quand on a découvert que le pape Léon XIV est au rendez-vous de Notre-Dame du bon conseil. Vous savez, il est allé prier, je crois, le lendemain de son élection, de ce sanctuaire italien, et je pense que ça dit quelque chose de ce que le Seigneur va nous donner de vivre. Notre-Dame du Bon Conseil, vous irez voir, c'est pas mal. Dans l'intimité avec Dieu et dans l'écoute de sa parole, nous mettons peu à peu de côté notre logique personnelle, dictée le plus souvent par nos fermetures, par nos préjugés, par nos ambitions, et nous apprenons à demander au Seigneur, que désires-tu ? Quelle est ta volonté ? Que désires-tu ? Quelle est ta volonté ? Un homme, Éric, menait une passionnante carrière dans la finance à Paris. Il était promis un brillant avenir. Mais il était peu disponible pour sa famille. Il hésitait à renoncer à son emploi et à sa sécurité financière. L'esprit de conseil lui a conféré la liberté, rendant sa conscience capable de faire un choix concret, en communion avec Dieu, et de choisir un bien plus grand. Et c'est héroïque. Mère Teresa, qui était religieuse, qui avait consacré déjà sa vie à Dieu et qui est bouleversé par une rencontre avec un pauvre de la rue. Et elle prie, elle est bouleversée, mais elle est rassurée par le Seigneur, ne crains rien, je serai toujours avec toi, prie toujours avec ferveur, et toutes les difficultés s'évanouiront. Et vous savez que c'est là aussi qu'elle va, sentir qu'il faut qu'elle fonde une communauté. Voilà. Un appel dans l'appel, comme on dit. Et si nous invoquions l'Esprit Saint pour constituer nos menus, afin qu'ils correspondent dans la mesure du possible aux besoins et aux goûts de chacun ? Bon,
proportion gardée. Hein. Parce que si les cuisiniers dans une cantine scolaire faisaient ça, il y aura des frites tous les jours. Vous laissez 5 minutes ?
Ah oui,
c'est clair. D'autre part, il nous est pas forcément facile de trouver des bons mots au moment opportun pour consoler ou conseiller un proche. L'Esprit Saint répond à notre appel et par son don de conseil, il nous invite à faire le bien selon la volonté de Dieu. Ou quand nous voulons nous débarrasser d'une mauvaise habitude, pourquoi ne pas invoquer le Saint-Esprit afin qu'il nous conseille sur les moyens adoptés pour surmonter le mal et pratiquer le bien. Mais toujours la question, c'est est-ce que je veux ? Ouais, c'est ça. Hein. Est-ce que je veux ? Les dons n'iront, d'une manière générale, les dons n'iront jamais contre notre volonté. Hein. Vous comprenez bien. Hein. Mais chercher le royaume et sa justice, et le reste vous sera donné de surcroît, dit le Seigneur. Mais est-ce que je veux Dieu ? Est-ce que je veux le royaume de Dieu ? Le don de piété qui nous permet d'être en lien profond avec Dieu. C'est le don de piété qui a été baptisé à reconnaître Dieu comme Père. Nous avons souvent une idée précise de Dieu créateur et sauveur. Il nous est plus difficile d'imaginer cet être tellement grand, voire lointain, comme notre Père. Et pourtant, c'est ce que nous accorde l'esprit de piété, une attitude filiale qui fait de chacun des baptisés un enfant de Dieu. C'est pas toujours facile parce que là aussi notre psychologie peut être blessée par des images paternelles, humaines, et on veut tout sauf que Dieu soit ainsi. Voilà. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, enfin vous avez compris. On voudrait pas que Dieu soit à l'image de ça, non, non, heureusement. Il est tout autre. Mais vous voyez, Saint Éphrem, il disait le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint. Je ne me trompe pas, c'est ça ?
Non, non,
c'est Éphrem. Mais.
Ça,
c'est Séraphin. Pas ça, Éphrem. Ça, c'est Séraphin. Merci. Merci beaucoup. Mais aussi, je dis que le but de la vie chrétienne, c'est d'appeler Dieu Abba, voilà, comme le dit Saint Paul. L'Esprit Saint. Gémit en nous et il nous fait appeler Dieu Abba Père. C'est ce lien de filiation qui donne un sens à toute notre vie, qui nous maintient solides en communion avec Dieu, également dans les moments les plus difficiles. On peut relire une parole qui en tout cas m'a particulièrement marqué de manière profonde, cette parole du Père à Jésus au moment de son baptême, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. » Voilà. Et ça, c'est une parole vraiment à reprendre dans la prière et demander le don de piété pour la comprendre. Le Père me dit ça de moi. Le Père dit ça de moi. Tu es ma fille. Celle-ci est ma fille bien-aimée en qui j'ai mis tout mon amour. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Alors évidemment, puisque nous sommes enfants d'un même Père, notre relation aux autres doit s'en trouver enrichie aussi. Comme il est dommage qu'on se regarde dans une paroisse de manière tellement humaine, je le dis pour moi hein, d'abord, mais on se regarde de manière tellement humaine, et pas au bon sens du terme, hein, je ne dis pas humain au bon sens du terme. Voilà, on se regarde un peu dans le blanc des yeux, on se méfie, Mais rarement on se voit. Notre première impression, c'est de dire waouh, voici un fils bien-aimé du Père et le Père a mis en lui tout son amour. Pourtant, c'est à ce prix-là qu'on peut croître dans la communion. Nous sommes alors capables, comme dit saint Paul, de nous réjouir avec qui est dans la joie, de pleurer avec qui pleure, d'être proche de qui est seul ou angoissé, de corriger qui est dans l'erreur, de consoler qui est affligé, d'accueillir et de secourir qui est dans le besoin. L'esprit de piété nous apporte la douceur dont le monde a tant besoin et qui nous manque parfois dans nos communautés, la douceur. Enfin, le don de crainte. C'est mon préféré. Et c'est celui dont on s'excuse à chaque fois qu'on fait une catéchèse, on prépare des jeunes à la confirmation. Alors, le don de crainte. Alors, attention, attention, ça ne veut pas dire avoir peur de Dieu. Bah oui, c'est vrai. Le mot, il est ce qu'il est. Mais, effectivement, ça ne signifie pas avoir peur de Dieu. Malgré tout, ça nous permet de ressentir pour le Seigneur et ses créatures un profond respect. On parle de sainte crainte, vous savez. La crainte de blesser. La crainte de mettre la main sur un mystère qui nous dépasse. On peut avoir de la crainte, et ce que je viens de dire, pour à l'égard d'une personne. Moi, c'est un don que je demande quand toute personne qui vient me voir, qui suis-je pour donner des conseils. Ce matin, j'ai rencontré une personne, et visiblement des problèmes avec le démon. Quoi. Qui suis-je? Je faisais pas le malin sur le chemin en allant voir cette personne. Non pas parce que le démon c'est pas le problème, mais qui suis-je moi? Et j'espère, enfin, de Seigneur, que je ne me prenne pas pour la mesure, d'accord? Parce que la personne qui m'est confiée, c'est une personne, c'est un enfant de Dieu. Un petit enfant ne veut pas faire de peine à ses parents, il s'en remet à eux avec confiance. Devenu adulte, le chrétien recherche cette même attitude d'abandon vis-à-vis du Seigneur. La crainte de Dieu, dit le pape François, c'est le don de l'Esprit qui nous rappelle combien nous sommes petits face à Dieu et à son amour, et que notre bien réside dans l'abandon, avec humilité, avec respect et confiance entre ses mains. Il n'est pas facile pourtant de s'abandonner au Seigneur. Mais est-ce que j'accepte, j'aime beaucoup cette expression, de rendre les armes, de déposer les armes. Et quand j'étais en primaire, je crois, j'étudiais les Gaulois, les Romains, on voit Vercingétorix se déposer les armes devant Jules César. Parce que moi, devant le Seigneur, il y a des lieux où je n'ai pas accepté de déposer les armes. Est-ce que je n'ai pas accepté de ployer le genou? Pas forcément physiquement. Même si, moi je sais qu'en tout cas, quand ma relation avec le Seigneur, je ne sais plus trop où j'en suis, je me mets à genoux. Je sais que c'est polémique, on a le droit d'être contre, mais moi en tout cas ça m'aide, parce que ce que mon corps exprime, parfois mon corps exprime ce que mon âme n'arrive pas, il ne veut pas exprimer. Et quand c'est dur de continuer à croire, c'est dur de continuer à espérer, d'aimer, je sais qu'à un moment il faut que mon corps, il s'y mette d'abord, pour que mon âme vienne. C'était le petit conseil. La crainte de Dieu est le don de l'Esprit qui nous rappelle combien nous sommes petits face à Dieu et à son nom. Mais en même temps, nous permet d'avoir confiance dans cette bonté, cet amour infini, puisque Dieu est grand, puisque je reconnais sa grandeur. C'est le prémisse pour m'abandonner à lui. Petit à petit, en laissant l'Esprit Saint ouvrir notre cœur, nous percevons que tout vient de Dieu, que tout ce que nous faisons, nous l'accomplissons par lui et avec lui. Et la louange monte alors dans notre cœur. Par conséquent, nous sommes portés à suivre le Seigneur avec humilité, docilité et obéissance. Et parfois, on entre dans la relation avec le Seigneur, c'est comme un cow-boy qui rentre dans un saloon. Quoi. Vous savez, les portes là, les portes. Beaucoup mieux aussi. Ouais. T'as de la chance de m'avoir. Comment est-ce que j'entre dans une église, hein? Et comment est-ce que j'entre dans une église? La mode Lucky Luke, la mode. J'exagère, mais vous voyez quoi. Est-ce que j'y rentre quand même en me laissant accueillir par quelqu'un de plus grand? Et est-ce que je fais silence? Est-ce que. J'ai reçu une demande très bien de mes paroissiens, que je n'osais pas, moi, prêtre, exprimer, vous savez, le prêtre, hein, on pense que parce qu'on a le micro le plus souvent, c'est, on peut dire ce qu'on veut. Évidemment que non, on peut dire rien. Bon. Je trouve qu'avant la messe, c'est vraiment un hall de gare, hein, l'église. Et là, j'ai dit, merci Seigneur, je ne suis pas le seul à le penser. Et surtout, je n'aurais pas moi-même à le dire. Je dis, bon, bah, d'accord, on va essayer de faire quelque chose. Et puis, vous savez, dans une paroisse, il y a des gens très différents. Il y a une grande diversité. Hein. Il y a ceux qui disent que non, non, c'est bien, parce qu'il faut quand même se dire bonjour, c'est plus fraternel. Il y a ceux qui aimeraient bien prier, il y a ceux qui... Et alors là, quand j'ai vu autant de personnes différentes dire la même chose, je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc. Quand on parle aux équipes liturgiques, j'en parle à l'EAP. Et du coup, bah, 5 minutes avant, maintenant, c'est rentré dedans, 5 minutes avant la messe, les musiciens, les chanteurs se taisent, et il y a un silence, et on entre dans la célébration avec un cœur... Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais quoi. Le don de crainte nous aide à ne pas faire de la messe un moment banal à cause de notre distraction. Dieu se donne à moi dans l'Eucharistie. Pareil, hein, je vais communier, est-ce que j'y vais comme un barbare, quoi ? Est-ce que j'y vais comme un... Ou est-ce que j'y vais avec crainte, vous comprenez ? Avec amour, en disant waouh, c'est tellement grand. C'est tellement grand ce qui est en train de se passer. L'esprit de crainte se manifeste par une remise en cause de ma routine. Voilà, je le disais aussi tout à l'heure. Hein. L'esprit de crainte, le don de crainte, fait que. Comme le dit le Seigneur à Moïse, hein, devant le buisson ardent, ôte tes sandales de là, la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sacrée. On devrait hein, ôter nos sandales devant chacun. L'esprit de crainte nous confère un infini respect de toutes ces personnes et renforce notre volonté de ne pas empiéter sur leur dignité, leur conscience et leur liberté. Je crois que c'est actuel. Voilà. On ne touche pas une personne humaine, même si elle souffre. Et tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Sur ces bons mots, chers frères et sœurs, je m'arrête.
Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.